Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Hey, mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis tout seul dans le studio pour vous raconter la paracha. Jean, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui, à qui nous souhaitons une réfoua shelema. Et donc, voilà, je suis le rabbin Mendel Samama et je vais vous raconter la paracha. On a 24 minutes à passer ensemble. Allez, on va se mettre à l'aise tranquillement. Et la paracha de cette semaine, elle s'appelle Kitissa. Alors, en hébreu, le mot Kitissa veut dire quand tu élèveras. Quand tu élèveras la tête du peuple juif, c'est-à-dire quand on va devoir compter. En réalité, il y a eu plusieurs phases de comptage du peuple juif. Et en l'occurrence, il faut savoir que quand on comptait les gens, il ne faut pas compter genre 1, 2, 3, 4, 5, mais il faut plutôt compter... Il y a des gens qui disent pas 1, pas 2, pas 3, mais ça ne change pas grand-chose. Mais il faut plutôt compter avec un machatzit shekel. C'est justement le devoir de cette semaine de donner un demi-shekel. Et que, en réalité, quand chaque personne donnera un demi-shekel et qu'ensuite on va compter les demi-shekels, à ce moment-là, on va savoir il y a combien de personnes. Alors, il y a plusieurs questions par rapport à ce sujet-là, évidemment. Parce que d'abord, il y a toujours des questions sur des sujets. Donc, c'est évident. Mais essayons de préciser les questions. La première question, c'est pourquoi un demi-shekel? Et la deuxième question, c'est pourquoi fallait-il que la Torah précise que le shekel, c'est 20 guéras. Donc, c'est comme si on disait 20 centimes. Et donc, il fallait donner un demi-shekel, donc 10 guéras. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire, bah, donner un demi-shekel, c'est 10 guéras. Bon, alors, l'explication est hyper intéressante parce que ça nous permet de comprendre le sens profond de ce demi-shekel. Il faut savoir que la Torah, elle dit que Dieu dit à Moïse, voici ce qu'ils donneront. Alors, faut préciser qu'à chaque fois que la Torah précise le terme « voici », et en hébreu, ça se disait, c'est-à-dire qu'on a vu quelque chose. C'est pas juste qu'on a décrit quelque chose, mais qu'on a vu. C'est comme si on avait pointé du doigt quelque chose. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a pointé du doigt. Comme si on savait pas c'était quoi un demi-shekel. Vous voyez, c'est une blague juive, ça. Alors, le régisseur est en train de se marrer. Mais c'est vrai, parce que Dieu a montré à Moïse un demi-shekel en feu. Alors la question qui se rajoute à la question qu'on a déjà dit, c'est pourquoi fallait-il montrer à Moïse un demi-shekel en feu? Et ça répond à quelle question que Moïse avait. Alors pour tout vous dire, ce passage est assez compliqué parce que Moïse ne comprend pas quelque chose. Parce que la Torah nous dit que le demi-shekel sert à pardonner et notamment pardonner la faute du veau d'or. Donc comment est-ce que quand on donne un demi-shekel, donc c'est comme si je vous disais maintenant je donne 50 centimes d'euros, comment ça permet de pardonner sur une faute aussi grave? Alors la réponse c'est que Dieu lui dit mais tu vas donner un demi-shekel, enfin chacun va donner un demi-shekel, mais en feu. Alors ça veut dire quoi en feu? C'est-à-dire qu'il faut faire brûler la pièce avant. Alors pour être encore plus précis, c'est que la Torah nous dit cette semaine que chaque personne est en réalité la moitié de quelque chose. Et la moitié de quelque chose, c'est-à-dire, c'est la conscience que je ne peux pas donner un. C'est-à-dire, je ne peux pas donner un shekel. Parce que si je donne un shekel, ça voudrait dire que je donne tout ce que j'ai et voilà, et moi, je n'existe plus, ou alors il y a moi et il y a l'autre. Alors que si je donne qu'un demi, ça veut dire que j'ai conscience qu'en réalité, moi, je ne suis qu'un demi. Et qu'en donnant mon demi, je deviens un entier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand moi j'ai donné ma part de 10, en réalité je vais m'associer à l'autre part de 10 ensemble et ensemble on fait une unité de 20. Voilà ce que la Torah veut nous enseigner. Et donc c'est cette idée-là qui permet de pardonner et de faire pardonner la faute du veau d'or. Parce que la faute du veau d'or en réalité c'est le détachement. C'est le détachement de l'homme qui va vers l'idolâtrie, donc qui se détache de Dieu. Et quand l'homme comprend qu'en réalité il n'est pas une entité qui lui permettrait potentiellement de s'attacher à une autre entité, mais en réalité il ne fait qu'une seule entité avec Dieu, alors à ce moment-là il arrive à pardonner, en réalité à réparer la faute qu'il a fait, l'erreur qu'il a fait, et c'est l'objectif. Donc l'objectif c'est de donner un demi-shekel, donc 10 guéras, parce que quand je donne 10 guéras, c'est-à-dire en réalité le 10 c'est ce qui va symboliser les 10 forces de mon âme, parce que tout le monde sait qu'on a 10 forces dans l'âme. Donc, je vais donner mes 10 forces et je vais les coller aux 10 forces qui est en face de moi. Et qui est en face de moi? C'est l'Éternel. Et à ce moment-là, eh ben, j'arrive à pardonner cette faute. Et qu'est-ce qui permet de faire l'amalgame entre mes 10 forces et Dieu qui est en face de moi? C'est le feu, parce que tout le monde sait que le feu, ça permet de souder, ça permet de créer, de faire en sorte que les métaux deviennent une entité. Je peux prendre deux métaux et les souder grâce à du feu. Et c'est ça l'idée profonde qu'il y a dans notre paracha. Et c'est ce qui permet à une personne de réaliser le kitissa, c'est-à-dire quand tu vas t'élever. Et... ce que j'ai envie de dire, c'est que dans notre paracha, nous allons parler que d'élévation. Alors, déjà, en donnant un demi-shekel, donc il permet à l'homme de s'élever. Deuxièmement, on va, deuxième épisode dans notre paracha, c'est le fait de préparer le kiyor qui va permettre de se laver les mains et les pieds avant de commencer le sacerdoce dans le temple et dans le tabernacle. Et tout le monde le sait. Se laver les mains et les pieds, c'est ce qui permet à une personne de passer d'une phase A à la phase B, c'est-à-dire de passer d'une phase neutre à la phase plus spirituelle. Donc c'est encore une idée de l'élévation. Et la partie d'après, c'est celle qui va nous parler des encens, du devoir de faire les encens et les encens. Moi, j'ai envie de dire qu'une personne, quand elle est parfumée et quand elle n'est pas parfumée, elle n'est pas dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que l'encens, le parfum, c'est quelque chose d'hautement spirituel parce que d'une certaine manière, c'est vrai que c'est une matière physique, mais c'est une odeur. Donc, c'est quelque chose qui est difficilement palpable, c'est difficilement touchable. Et pour autant, une personne change d'état d'esprit, on peut changer d'humeur. Il y a des gens, par exemple, qui ont à la maison des bougies qui sentent et ça change leur humeur. Tout à coup, ils sont d'une humeur différente. Quand une personne se lève le matin, elle est dans un état d'esprit, j'ai plus envie de dire dans un état tout court, et elle va prendre sa douche, elle va se laver, elle va se parfumer, elle va devenir quelqu'un d'autre. Donc, dans l'encens, il y a cette idée d'être capable de passer une autre phase. Et encore une fois, ça permet une certaine élévation. L'objectif, c'est toujours l'élévation spirituelle. Parce que même dans l'odeur qu'il y avait des encens qui permettaient de faire la kétorette dans le temple, c'est justement d'élever cette partie-là, de faire en sorte que l'odeur soit spirituelle. Quand je dis l'odeur spirituelle, c'est-à-dire réussir à trouver dans l'abstrait du monde qui nous entoure, réussir à lui donner cette connotation spirituelle. Voilà. Ensuite, nous avons la mitzvah de terminer. Alors, Bezalel, évidemment, qui va commencer à imaginer le temple, d'autant plus que c'est un très grand architecte, donc ça va être son objectif. Et surtout, on a la mitzvah du Shabbat. Le Shabbat, encore une fois, Kitissa, toujours la même idée, l'idée de l'élévation. Le Shabbat, qui est un jour comme un autre dans la semaine, mais qui en réalité n'est pas du tout comme les autres. Donc c'est une journée de 24 heures comme toutes les autres, mais en réalité, c'est pas pareil du tout. Donc c'est encore une fois l'idée de l'élévation dans la semaine. J'ai envie d'ajouter que la mitzvah de Shabbat a été dite ici dans notre paracha, parce que justement, c'est ce qui nous permet de savoir ce qui est interdit de faire le Shabbat. Parce que quand la Torah nous dit « vous allez faire le Shabbat », elle nous dit pas « qu'est-ce que ça veut dire « vous allez faire le Shabbat ». Et donc, la Torah nous dit « vous allez construire le Mishkan », et juste à côté, elle nous dit « ah, mais vous allez faire Shabbat ». C'est-à-dire, même si vous êtes très pressé pour construire ce Mishkan et que vous avez absolument envie de travailler 7 jours sur 7, H24, eh bien, vous allez devoir travailler seulement 6 jours sur 7 et non pas 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'on va devoir arrêter les travaux du Mishkan pour respecter le Shabbat. Donc, si moi, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on respecte le Shabbat, eh bien, il suffit pour moi d'analyser les travaux du Mishkan et de regarder qu'est-ce qu'on faisait pour construire ce Mishkan. Et à partir de là, je sais ce que je n'ai pas le droit de faire le Shabbat. Et c'est comme ça que nous avons 39 travaux qui suivent en réalité le process de fabrication du Mishkan et l'ensemble des travaux qui se faisaient dans le Mishkan et donc qui ne se faisaient pas le Shabbat. Voilà comment est-ce que fonctionne la logique de la Torah. Pour ceux qui étudient le Talmud, le savent davantage. Alors ensuite, nous avons une autre section dans notre paracha. Vous comprenez, je suis en train de faire un monologue, donc c'est compliqué pour boire le café en même temps. Mais... et comme vous m'écoutez avec beaucoup d'attention, donc je vous donne des petits blancs pour pouvoir totalement intégrer l'ensemble des informations que je vous donne. Nous avons certainement l'épisode, j'ai envie de dire, d'un côté la plus dramatique de l'histoire juive et d'un autre côté la plus importante de l'histoire juive. Voilà, c'est le côté, les deux facettes de la pièce. Parce que nous avons l'épisode de la faute du veau d'or. Alors vous comprenez ici, c'est Moïse qui monte sur le mont Sinaï pendant 40 jours et il prévient le peuple juif. Il leur dit, voilà, écoutez, on a fini le don de la Torah, donc on est le 6 Sivan, 7 Sivan. Il dit, voilà, écoutez, maintenant, on a fini le don de la Torah. Enfin, on a fini les 10 commandements. Maintenant, je vais monter sur mon Sinaï et Dieu, il a des louchot, il a les tables de la loi à me donner et je vais vous les ramener. Et donc, avec tout ce qui va avec. Et bien, le peuple juif, il attend. Il attend, il attend, il attend. Mais le problème, c'est qu'il a mal calculé ses jours. Et le dernier jour, le 40e jour, pour eux, ils se disent, tiens, c'est bizarre, Moshe ne vient pas. Et comme d'habitude, quand on commence à avoir des doutes par rapport à quelque chose, eh bien, on commence à avoir des indices qui peuvent aller concorder dans le sens de ce qu'on recherche. Et de ce fait, ils se sont dit, tiens, Moshe, il est mort. Alors, si Moshe est mort, ça veut dire que, eh bien, forcément, on n'a plus de guide. Et s'il faut avoir un guide, eh bien, il faut faire quelque chose pour le créer. Et ils se disent, on va créer un veau d'or qui va nous guider. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les sens kabbalistiques de pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un veau d'or et pas autre chose, et pourquoi de l'or, et pourquoi un veau, et toute l'histoire. Mais je vous raconte l'histoire, et je vais ensuite m'arrêter sur un élément de cette histoire un petit peu plus tard. Ils vont voir Aaron. Aaron essaye de le retarder en leur disant, vous savez quoi, allez demander à vos femmes et à vos enfants vos bijoux et l'or, comme ça on va créer un dieu, puisque c'est ce que vous avez envie de faire. Et l'objectif en réalité c'est de les retarder. C'est-à-dire l'objectif c'est de dire, bon bah ils vont aller chez leurs femmes, ils vont demander les bijoux à leurs femmes. Les femmes, forcément, elles ne vont pas vouloir donner leurs bijoux parce que ça n'existe pas un truc pareil. Donc, ils vont revenir, on va retarder, etc. Le temps qu'ils vont commencer à discuter, tergiverser, etc., bah, Moshe, il sera là et l'affaire sera classée. Donc, il essaie de gagner un peu de temps. C'est vrai qu'Aaron avait peur parce que, comme le Midrash nous dit, Hur, qui était son cousin, avait été tué juste avant. Parce qu'il s'était opposé à cette idée, donc il avait lui-même peur pour sa vie. Donc, il a essayé de faire ce stratagème. Bon, le stratagème n'a pas marché, parce que vous savez, quand les gens sont un peu obtus, j'ai envie de dire, et qu'ils sont arrêtés sur une idée, et qu'ils sont incapables de réfléchir à quelque chose, ils réfléchissent pas, hein, bon. Et ils réfléchissent pas, au lieu d'aller chercher les bijoux chez leur femme, ils ont pris leurs propres bijoux, et ils l'ont jeté dans le feu. Il y a eu d'ailleurs ce qu'on va appeler entre guillemets un miracle, que toute cette quantité d'or a permis de faire sortir un veau. Donc il y a un veau qui est sorti du feu, et donc un veau d'or. Et ils ont commencé à chanter, à danser autour, et à commencer à ce qu'on va dire, faire d'idolâtrie. Bon, Dieu regarde ça du ciel, et il dit à Moshe, écoute, on a un problème en bas là, faut faire quelque chose, je pense que ça serait bien que tu descendes. Donc Moshe descend et il voit, et donc il a les tables de la loi qui sont gravées par Dieu avec les 10 commandements. Il voit ça et il prend les tables de la loi et il les jette. Il les jette, elles se cassent. Et à partir de là, eh ben, on va dire c'est le drame. Parce que qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ont fait l'idolâtrie? Il y a une épidémie. Il y a une partie des gens qui sont morts. Moshe qui va prendre la tribu de Lévi qui, elle, n'a pas participé à cette faute et qui vont tuer toutes les personnes qui ont participé au veau d'or, donc à peu près 3000 personnes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain, je vous explique, le lendemain, Moshe remonte. Voilà, on va dire, il a réglé le problème, il est remonté. Et maintenant, il se passe quoi? Eh bien, Moshe, il va mettre quelque part Bah, sa vie, sa carrière, j'ai envie de dire, toute son histoire, sa propre histoire, il la met en jeu. Et il dit à Dieu comme ça, écoute, je vais vous lire le texte en hébreu, il dit, « Ve'ata imtisa chatatam, ve'imayin mechininam isifrecha asher katafta. » Et maintenant, tu pardonnes au peuple juif leur faute, alors c'est très bien. Et sinon, efface-moi de la Torah. Donc, ton livre que tu as écrit. Je n'ai pas besoin d'être mentionné dans ce livre. Et il y a plein d'explications là-dessus. Et par exemple, Rashi nous dit, efface-moi de toute la Torah pour ne pas que les gens disent que je n'ai pas été capable de demander de faire pardonner cette faute. Il y a là, quelque part, Moshe qui met tout son poids dans la balance. Et donc, il y a une grosse négociation qui va se mettre en place. Moshe va faire jouer des arguments très, très forts que je vous laisse découvrir dans la paracha jusqu'au moment où Dieu, il dit « Salarti kidvarecha ». Oui, j'accepte, je pardonne comme ce que tu m'as demandé. Et donc, il pardonne le peuple juif parce qu'en réalité, Dieu, il voulait tout effacer. Donc, il voulait effacer tout le monde. Et redémarrer l'histoire du peuple juif avec Moshe. Bon, Moshe, évidemment, n'a pas accepté. Ça aurait été quand même une belle promotion pour lui, hein, je ne vous le cache pas. Mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Ensuite, il y a, forcément, il y a les deuxièmes tables de la loi qui vont venir et qui vont être le signe de la réconciliation entre le peuple juif et Dieu. Bon, évidemment, le peuple juif va être puni, Et comme Dieu dit, forcément, dans toutes les punitions qu'il y aura à travers l'histoire, il y aura un petit peu de la punition de la faute du veau d'or, comme pour dire, cette faute du veau d'or, en vérité, vous allez la traîner un petit peu toute votre histoire. Ce qui n'est pas faux, puisqu'en réalité, le Midrash nous explique que c'est à partir de la faute du veau d'or que la mort est revenue sur terre. Ce que j'ai envie de dire dans cette paracha, c'est la raison pour laquelle je dis que d'un côté, c'est le passage le plus dramatique de notre histoire, et d'un autre côté, c'est le plus extraordinaire de notre histoire. Alors, j'ai envie de soulever quelques points. Tout d'abord, dans cet épisode, on observe une chose. C'est que il n'y a pas de faute capable de séparer définitivement le peuple juif de son Dieu. Et j'ai envie de dire Dieu du peuple juif. Ça va ensemble. D'ailleurs, c'est la même idée du demi-shekel, comme on a dit tout à l'heure. Il y a le peuple juif d'un côté et il y a Dieu de l'autre, et ça ne forme que les deux facettes de la même pièce. Donc, il y a cette idée que même si le peuple juif a fait la faute la plus dramatique, la plus grave, parce qu'en réalité, l'idée même de penser qu'à peine 40 jours après avoir vu la révélation du Mont Sinaï, il y a une personne qui puisse aller vers de l'idolâtrie, c'est une pensée qui est complètement tordue, j'ai envie de dire. J'ai même pas envie d'y penser. C'est-à-dire que moi, parfois, je réfléchis à cet épisode, j'essaye de me mettre à leur place et de me dire, mais est-ce que moi, j'aurais fait pareil qu'eux? Mais moi, ma conclusion, c'est non, j'aurais pas fait pareil qu'eux. Ben non, 40 jours après, je fais pas l'idolâtrie. Un an, deux ans, trois ans après, je veux bien. Mais pas 40 jours après. D'ailleurs, c'est tellement tordu comme idée. C'est que même le Talmud nous dit, le peuple juif n'était pas en mesure de faire la faute du veau d'or à cette période-là. Si ce n'est que la Torah veut nous apprendre une chose, c'est que la tshuva, la repentance d'une collectivité, c'est-à-dire que la collectivité pourra toujours revenir. Il n'y a jamais un moment où il y a une rupture totale. Il y a toujours cette capacité, cet espoir de pouvoir faire teshuva et de revenir. Et donc, vous savez, parfois, vous êtes face à une situation et vous vous dites « Ah non, non, mais ça c'est trop grave, c'est impardonnable. Ça c'est la faute impardonnable. » Et bien la Torah veut te dire « Tu vois là cette faute? Tu vois la faute du veau d'or là maintenant dans cette situation? Pas la faute du veau d'or qu'on va faire 300 ans plus tard. Je te parle de la faute du veau d'or 40 jours, pardon, juste après la révélation du Mont Sinaï. C'est un truc impardonnable. Eh bien, Dieu l'a quand même pardonné. Voilà. C'est cette idée de l'éternité de la relation entre Dieu et le peuple juif. Ça, c'est le premier élément. Et c'est pour ça que je trouve cet élément extraordinaire. Et le deuxième, c'est par rapport à Moshe. Moshe, c'est un héros comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un héros pareil. Moshe est un héros, un leader qui fait preuve d'une abnégation totale pour sauver son peuple. Moi, je vais vous dire une chose, les amis. Vous avez devant vous un rabbin qui voit quelque chose d'inacceptable et qui dit, écoutez-moi bien, chère communauté, vous avez fait là un truc qui est totalement inacceptable. Je vous couvre. Je vous accable pas. Je vous couvre. Moi, je négocie avec Dieu pour que vous soyez sauvés. Et si Dieu ne pardonne pas, je démissionne. Vous en connaissez beaucoup des gens comme ça ? Vous en connaissez beaucoup des gens qui voient des choses inacceptables et qui sont prêts à aller au feu, à mettre leur carrière, leur vie en jeu pour dire l'amour et le lien que nous avons entre nous est indéfectible au point où je suis même prêt à me mettre contre Dieu. Hein ? C'est ça l'idée. C'est je me mets contre Dieu et je dis à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi et je vais négocier avec toi jusqu'à ce que je vais avoir gain de cause. Tout ça parce que je veux défendre ma communauté. Voilà. Pour moi, il y a là l'acte le plus héroïque d'un leader. Un leader communautaire, le leader d'un peuple, le leader d'un groupe. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu un homme qui était capable d'en faire autant, d'autant plus un homme religieux. C'est-à-dire un homme religieux qui, normalement, est censé se soumettre, entre guillemets, à Dieu. C'est-à-dire, vu la relation que Moïse avait avec Dieu, normalement, il se dit, bon, ben, si Dieu, il me dit, je vais faire ça, bon, ben, je l'écoute. C'est un peu normal. Il y a quand même Dieu qui me l'a dit. Et moi, j'ai dit, non, Dieu, je ne suis pas d'accord, là. Non, non. Si tu fais ça, tu m'oublies. Moi, je m'en vais, moi. Je ne fais pas partie de ton projet. Je ne fais pas partie de ton projet d'élimination d'un peuple. Tout ça, pourquoi ? Parce que tu n'es pas capable de leur pardonner. Et Dieu qui dit, mais attends, tu te rends compte de ce qu'ils ont fait ? Il n'y a rien de plus grave. Et Moïse y dit, ok, mais ça change rien. S'il n'y a rien de plus grave, c'est impardonnable, moi je bouge pas. C'est comme ça où je m'en vais. Où est-ce que vous voyez quelque chose d'aussi grand ? J'ai presque envie de dire, quand l'amour du peuple juif est plus fort que l'amour de la Torah, quand l'amour de l'être humain, du peuple juif, c'est-à-dire du peuple en tant que peuple, de chaque personne en tant qu'être humain, est plus fort que tous les principes qu'on peut avoir, que toute l'idée qu'on peut avoir, que toute la relation qu'on a pu créer avec Dieu, on est capable de tout envoyer, sauter, tout ça parce qu'on a l'amour du peuple juif. Il y a ici la révélation d'une force incroyable que Moshe a donnée à toute l'histoire de l'humanité. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça peut-être que Moshe a gagné le fait que toute la Torah porte son nom. Parce que, en réalité, toute la Torah n'est que amour entre Moshe et le peuple juif. Moshe était incapable de quitter son peuple, était incapable de se détacher de l'histoire de son peuple. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça que je trouve cette paracha extraordinaire, parce que d'abord j'ai une fascination, vous voyez tout de suite, pour ce que Moshe a fait. Alors évidemment, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vous dis, mais surtout, il y a quelque part, d'une certaine manière, un héritage incroyable. Alors évidemment, on peut rentrer encore plus dans les détails, on peut rentrer dans la précision des mots, on peut essayer de comprendre pourquoi Moshe a cassé les louchot, pour l'étape de la loi, pourquoi est-ce que il a pris la décision de les casser, est-ce que c'est il avait le droit de les casser, peut-être il aurait dû les garder. Bref, il y a d'énormes débats sur tout ce sujet-là. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez cette semaine, c'est que c'est la plus grande histoire d'amour entre Moshe et le peuple juif se passe dans notre paracha et qui révèle en réalité la plus grande histoire d'amour entre Dieu et le peuple juif qui est en réalité éternel et qui ne pourra jamais se rompre. Voilà, notre paracha se termine avec... des mitzvot, des fêtes en rapide, et ensuite nous avons le fait que comment est-ce que Moshe Rabbeinu est resté sur Mont Sinaï encore 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, et le fait que quand Moshe Rabbeinu, enfin Moïse, était en réalité un homme, un être humain qui était mi-ange, mi-homme, parce qu'il a, il avait ce visage illuminé qui éblouissait les personnes quand il les voyait, et donc il était obligé de mettre un masque. Alors vous voyez, c'est, j'ai envie de dire, toute cette paracha, c'est Kitissa, c'est quand tu t'élèves, il y a dans la... dans le pardon, en réalité, c'est la paracha du pardon. Il y a dans le pardon quelque chose d'extraordinaire qui permet à l'être humain de s'élever. Quand on pardonne, on sait que quelque part on était en sursis, mais le fait d'avoir été en sursis, ça nous donne une, non pas une forme d'immunité, pas du tout, bien au contraire, mais ça nous donne une forme de sérénité. C'est-à-dire, on se dit, si j'ai été pardonné, c'est que je le vaux bien. Mes chers amis, Shabbat Shalom.